Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, la MONUSCO condamne avec fermeté une nouvelle vague d'attaques meurtrières contre des civils dans l'est de la RDC. Dans un communiqué publié ce samedi, la mission onusienne indique que ces attaques illustrent une fois de plus la menace persistante que le conflit fait peser sur les populations civiles. Le parti politique Ensemble pour la République accuse le chef de l'État de vouloir ouvrir la voie à une modification des verrous constitutionnels. C'est en réaction aux récentes déclarations du président Félix Tshisekedi sur un éventuel troisième mandat et une possible révision de la Constitution. L'invité de ce journal est le président du comité transitoire de l'Union nationale de la presse du Congo au Maniema, Grâce Mambi Wambambi, parle de la situation dans ce secteur au Maniema à l'occasion de la journée de la liberté de la presse célébrée le 3 mai dernier. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs, bonsoir. La MONUSCO condamne avec fermeté une nouvelle vague d'attaques meurtrières contre des civils dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Dans un communiqué publié ce samedi, la mission onusienne indique que des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours dans plusieurs territoires, dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant. Elle estime que ces attaques illustrent une fois de plus la menace persistante que le conflit fait peser sur les populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans ce communiqué, la MONUSCO indique que des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours dans des attaques survenues à Ituri, dans les territoires d'Irumu, Djougou et Mambasa, ainsi qu'aux environs d'Oicha au nord Kivu et dans la chefferie de Bafouliru au sud Kivu. La mission de l'ONU estime que ces incidents confirment la menace persistante du conflit sur les populations civiles dans l'est de la RDC, une région régulièrement touchée par l'insécurité. Elle dit également suivre avec préoccupation des informations faisant état des frappes aériennes et des bombardements survenus le 8 mai 2026 à Kilolirwe et Mushaki, au nord Kivu, ayant causé des victimes civiles. La MONUSCO rappelle que toutes les parties au conflit doivent protéger les civils et respecter les droits internationaux humanitaires ainsi que les droits humains. Elle appelle en fait à la cessation immédiate des attaques contre les civils et insiste sur la nécessité de traduire en justice les auteurs des violations.
Et pendant ce temps, au nord Kivu, la société civile du territoire de Lubero appelle le gouvernement au cantonnement des groupes armés, des groupes Wazalendo dits volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Cela en vue de leur formation au règlement militaire et au respect du droit international humanitaire. Cet appel intervient après la condamnation, mercredi dernier, à la peine capitale des membres du groupe Wazalendo Far West. Celui-ci a été reconnu coupable par le tribunal militaire de garnison de Butembo du meurtre d'un motard et du viol suivi du meurtre de sa cliente la semaine dernière à Kimbulu. Mouindo Tafuteni est le président de la société civile de Lubero. Il s'exprime au téléphone de Martial Papimukeba.
La coordination de la société civile Force Vive du territoire de Lubero, elle demeure ferme. La détention des armes par des personnes sans aucune formation, ni règlement militaire, moins encore sa notion des droits de l'homme, est une foyer de sécurité au sein de la population. Elle rappelle sa position au gouvernement de rassembler tous les Wazalendo dans un centre en vue d'une formation et règlement militaire et des capacitations sur les droits de l'homme. De plus, quant au groupe phare W, sur lequel la justice s'est prononcée pour sa suspension en territoire de Lubero, la société civile demande la suppression de ces mouvements. Le programme de PDDRCS est une piste pour accueillir ceux qui voudront réintégrer la vie civile.
Et toujours au nord Kivu, à Goma, si l'on ne fuit pas la guerre, c'est le volcan que l'on fuit. Dans les deux cas, les volontaires de la Croix-Rouge sont, pour la population, des figures familières et rassurantes. À l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge, le 8 mai, la population de cette ville salue le travail de ces hommes et ces femmes qui bravent les dangers pour être aux côtés des populations en détresse. Un hommage à suivre dans ce reportage de Rosalie Zawadi.
À Goma, vraiment, nous remercions la Croix-Rouge parce que ni t'étais la Croix-Rouge, nous-mêmes, on s'est demandé comment la ville pouvait ressembler.
L'hommage de cette femme de Goma fait référence à l'intervention des volontaires de la Croix-Rouge dans la ville pendant la crise de janvier 2025.
Pendant la guerre, la Croix-Rouge nous a beaucoup aidés parce qu'il y avait des corps par-ci, par-là, mais c'est la Croix-Rouge qui venait ramasser ces corps-là. La ville est puée par-ci, par-là, mais avec la Croix-Rouge, la ville est devenue vivable. Mais aussi, les enfants qui étaient séparés pendant la guerre avec leurs parents, la Croix-Rouge nous aider à faire les recherches pour retrouver ces enfants. Ils ont regagné la famille.
À l'image de cette mère des familles, chaque habitant de Goma porte en lui un récit de gratitude envers la Croix-Rouge. Non seulement pendant la guerre, même lors des éruptions volcaniques ou les épidémies. Aujourd'hui, certains veulent aussi être formés pour rejoindre à leur tour ces hommes et ces femmes au brassard rouge. Un engagement pour devenir eux aussi cette lueur d'espoir au cœur de la détresse. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et face aux besoins humanitaires croissants liés notamment à l'insécurité et au déplacement des habitants à Beni, la Croix-Rouge appelle la population, en particulier les jeunes, à adhérer massivement au volontariat pour renforcer l'assistance aux personnes vulnérables. Cet appel a été lancé hier vendredi, toujours à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge. Le président territorial de cette organisation humanitaire salue l'engagement et la bravoure des secouristes dans les actions de secours au sein de la communauté. Roger Moutana va s'exprimer au micro de Marc Marofimbo.
Nous tous ensemble, sans différence, sans discrimination, nous devons retenir qu'il faut aller vers les plus vulnérables pour les aider sans distinction. Le message à la population, c'est de pouvoir toujours être avec les volontaires de la Croix-Rouge et pouvoir adhérer pour qu'un jour, ensemble, nous puissions former une unité, cette unité qui peut permettre à ce que nous puissions aller vers la communauté, une communauté qui souffre. Et lorsque nous pouvons comprendre que nous allégeons les souffrances des plus vulnérables, de ceux qui ont besoin de nos actions, il faut que nous soyons nombreux, raison pour laquelle nous demandons toujours à ce que même dans une famille qui est un ou deux volontaires de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Nous sommes un partenaire, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans le cadre humanitaire, la raison pour laquelle nous sommes toujours à côté du gouvernement pour qu'ensemble nous puissions. D'ailleurs, à notre niveau, comme membre de la Croix-Rouge, nous sommes un service technique sur le plan de l'assistance aux vulnérables.
À cette occasion, 49 volontaires secouristes ont reçu des grades de mérite en reconnaissance de leur engagement et de leur bravoure dans les actions de secours au sein de la communauté. Le parti politique Ensemble pour la République hausse les tons après les déclarations du président Félix Tshisekedi sur un éventuel troisième mandat et une possible révision de la Constitution. Dans une déclaration politique rendue publique hier vendredi, le parti de l'opposant Moïse Katumbi accuse le chef de l'État de vouloir ouvrir la voie à une modification des voeux constitutionnels et parle d'un coup d'État institutionnel. Le parti politique Ensemble pour la République invite la société civile ainsi que l'opposition à la création immédiate d'un front républicain de résistance afin de défendre l'ordre constitutionnel. On écoute Olivier Kamitatou, membre du directoire de ce parti, dans cet extrait que nous propose Grâce Hamzati Massanzi.
Le régime prétend que la Constitution empêche le développement ou la paix. Nous opposons à ce mensonge la réalité des faits. Sur la paix tout d'abord. Ce n'est pas l'article 220 qui empêche de libérer l'Est. C'est l'absence d'une chaîne de commandement efficace et le détournement des fonds destinés aux opérations militaires. La Constitution n'est pas au front. Nos soldats, eux, y sont. Sans moyens. Sur le social. Est-ce la Constitution qui empêche nos enfants de fréquenter de bonnes écoles, nos jeunes de trouver du travail, nos sœurs et nos mamans de vivre en sécurité? Est-ce la Constitution qui détourne les fonds des infrastructures? Non. Ce qui affame le peuple, c'est une gouvernance de prédation, de clientélisme et de jouissance. Sur les accords internationaux, prétendre qu'il faut changer la loi fondamentale pour signer des contrats miniers est un aveu de haute trahison. On n'adapte pas la loi de la République aux intérêts partisans. La loi de la République s'impose à tous, citoyens et partenaires concernés. Le parti Ensemble pour la République active solennellement le devoir de résistance.
Dans la province du Tanganyika, le climat politique est tendu dans la ville de Kalemie depuis quelques jours. L'UDPS, Fédération urbaine de Kalemie, demande officiellement le départ du gouverneur du Tanganyika. C'était au cours d'une déclaration politique hier vendredi à Kalemie. L'UDPS reproche au gouverneur Christian Kitungwa, notamment l'insécurité persistante, la dégradation des infrastructures, ainsi que les difficultés liées à l'accès aux services de base. Le point avec Paulin Munanga.
Dans sa déclaration, l'UDPS critique la gestion du gouvernement provincial du Tanganyika. Ses partis de la majorité présidentielle dénoncent ce qu'ils qualifient des situations alarmantes dans laquelle la province est plongée. Dans la déclaration lue par Jean Kasongo, porte-parole de l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemie, ses partis revient sur les griefs portés contre le gouverneur du Tanganyika.
Les promesses répétées de développement n'ont produit que des illusions. Les faits sont extrêmement indéniables. Les infrastructures routières sont dans un état de délabrement très avancé, isolant davantage les centres-villes ainsi que plusieurs quartiers et avenues. L'insécurité atteint un niveau extrêmement préoccupant. La population vit dans une peur permanente.
En réaction, le conseil spécial du gouverneur du Tanganyika rejette ces accusations. Selon Abel Amundala, il s'agit de la manipulation politicienne.
Par rapport à la déclaration de l'UDPS, vous allez suivre la déclaration officielle que ceux qui ont qualité d'engager les partis vont faire, c'est ce qu'ils ont dit. Parce que ceux qui ont été utilisés encore par des politiciens en mal de positionnement n'a pas produit d'effet. C'est des gens sans titre ni qualité.
Signalons que des femmes qui demandent le départ du gouverneur ont organisé une marche quelques jours auparavant et par après, une manifestation soutenant le gouverneur a eu lieu toujours à Kalemie. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, l'hôpital général de Lancélé vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment dédié à la prise en charge nutritionnelle des enfants. Financé par l'UNICEF, cette unité nutritionnelle a été inaugurée hier vendredi. Selon Prosper Amédée, chef de la section santé de cette agence du système de l'ONU en RDC, cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique du renforcement du système de santé. Blaise Ndongala Mayanda, reportage.
Construit en 5 mois dans l'enceinte de l'hôpital général de Kinkolé, ce centre permet non seulement d'assurer la prise en charge des enfants, mais également de renforcer les actions de prévention, de promotion de la santé, ainsi que de la préparation des aliments thérapeutiques. Cet établissement comprend un bureau, une cuisine, une salle de restauration ainsi qu'une unité d'hospitalisation pédiatrique équipée de 10 lits. Selon Prosper Amédée, chef de la section santé de l'UNICEF en RDC, cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé.
C'est vrai que cette unité donnera une possibilité de prise en charge, une possibilité de faire de la prévention, une possibilité également de faire de la promotion.
De son côté, le secrétaire général au ministère de la Santé a salué cet appui de l'UNICEF tout en rappelant que la situation nutritionnelle en RDC demeure préoccupante, particulièrement dans la zone de santé de Lancélé. Docteur Bodi Ilonga Bompoko.
Aujourd'hui, l'unité nutritionnelle thérapeutique en santé moderne est là. Nous demandons donc aux responsables de l'hôpital général de Kinkolé d'en faire bon usage.
En plus du bâtiment, l'UNICEF a remis 6 motos des marques DT200 pour faciliter la mobilité des équipes de santé de ces centres nutritionnels.
À Matadi, dans la province du Congo central, la filière vétérinaire attire de moins en moins les étudiants. Les spécialistes de la santé animale tirent la sonnette d'alarme face à cette tendance. En cause, l'insuffisance d'offres de formation dans les universités et instituts supérieurs de la place. Cette situation est jugée préoccupante alors que les sciences vétérinaires jouent un rôle clé dans la protection du cheptel et la prévention de certaines maladies d'origine animale transmissibles à l'homme. Pour Boniface Panzou, chef de division provinciale à la pêche et à l'élevage au Congo central, cette discipline reste indispensable en raison de son lien direct avec la santé publique. Il est au micro d'Élise Kavira.
Au niveau du Congo central, presque un peu partout, il y a maintenant des ITAV et des instituts techniques vétérinaires. Alors, dès que vous terminez vos humanités, là, la seule option qui vous reste, c'est de choisir parmi les 4 universités qui sont connues à l'ordre vétérinaire, c'est-à-dire l'université de Lupin, l'université de Kinshasa, le Kraben qui est dans le Kivu et l'université de Lubumbashi. Il y a aussi l'université Kasavu à Bouma. Dans la faculté d'agronomie, il y a l'option zootechnie. Alors, les sciences vétérinaires sont tellement importantes actuellement parce que la plupart des maladies que nous avons sur les corps humains proviennent au moins 70% de maladies d'origine animale et 30% certainement de maladies environnementales. Alors maintenant, La difficulté, peu d'enfants viennent travailler. Ils voient d'abord ceux qui sont déjà au niveau des services, comment ils sont payés, la petite prime qu'on donne. Alors, à nous parents, la distance ne peut pas être un problème. C'est plutôt bien éduquer nos enfants pour qu'ils apprennent. Parce qu'en fait, là, c'est la profession. Créer de l'emploi, et c'est suffire par rapport à ce qu'on fait chaque jour.
L'avènement de la saison des pluies est une aubaine pour certains Quinois qui ne manquent pas d'ingéniosité. C'est notamment le cas de ceux que l'on retrouve aux différentes entrées de marché situées dans les environs de l'ancien grand marché communément appelé Zando. Pour permettre aux clients de circuler malgré la boue, ces jeunes proposent des petits services, parmi lesquels la vente des sachets en plastique enfilés aux pieds ou encore le lavage des pieds et des chaussures. Une activité qui leur permet de générer quelques revenus. Reportage Joyce Massanka.
À chaque fois qu'une forte pluie s'abat sur la ville de Kinshasa, le marché situé sur l'avenue Itaga devient impraticable. Le flaque d'eau, la boue et les immondices rendent la circulation pénible. Pour éviter de salir leurs pieds ou leurs chaussures pendant leurs achats, certains clients acceptent le service proposé par de jeunes vendeurs installés dans les allées du marché. Ils leur enfilent des sachets en plastique aux pieds, vendent un sachet à 500 francs et à chaque pied, ils en suggèrent deux.
Les sachets que nous vendons ici aident les clients qui entrent dans le marché pour faire leur achat, surtout à cause de la boue et de la saleté.
À la sortie du marché, d'autres jeunes proposent de laver les pieds ou de nettoyer les chaussures de clients, moyennant une petite somme. Une activité devenue courante dans ces grands centres de négoces où l'insalubrité reste visible au quotidien. Une situation qui n'est pas du goût des clients, les quêtes dénoncent des conditions d'hygiène précaires dans ces lieux fréquentés chaque jour par des milliers de vendeurs et d'acheteurs.
Nous demandons que les marchés.
Actualité internationale.
La justice sud-africaine rouvre la voie à une procédure de destitution du président Ramaphosa. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a réouvert la porte hier vendredi à une procédure de destitution du président Cyril Ramaphosa. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire dite Falafala qui dure depuis 4 ans. Un scandale lié au vol d'une importante somme d'argent liquide estimée à près de 600 000 dollars sur l'une des propriétés du président.
L'invité.
L'invité de ce journal est le président du comité transitoire de l'Union nationale de la presse du Congo au Maniema, Grâce Mbambi Wambambi, parle de la situation dans ce secteur à l'occasion de la journée de la liberté de la presse célébrée le 3 mai dernier. Grâce Mbambi Wambambi s'entretient avec Florence Kizalunga.
Grâce Mbambi Wambambi, bonjour.
Bonjour.
Liberté de la presse au Maniema à l'heure du numérique. Ce thème, pourquoi vous l'avez choisi pour animer votre conférence débat à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année?
En fait, nous avons choisi ce thème, c'est pour nous permettre, nous professionnels des médias de la province du Maniema, en particulier nous de la ville de Kindu, de réfléchir autour de l'actualité de l'ère qui est l'évolution numérique. Il est vrai que les médias doivent suivre cette évolution numérique et il se constate malheureusement que chez nous dans la province du Maniema, particulièrement ici à Kindu, nous sommes en retard. Et voilà pourquoi nous, UNPC, nous avons décidé de réfléchir autour de ce thème pour nous permettre de voir comment nous allons rattraper ce retard pour que le média ou les journalistes du Maniema soient aussi à la pointe du numérique qui est en train d'évoluer du jour le jour.
Est-ce que la presse du Maniema est prête à basculer vers cette transition étant donné que le numérique présente encore des grands défis dans cette province du Maniema?
La presse du Maniema est prête à cette transition, mais cela passe par certaines conditions. D'abord, premièrement, il faudra former les journalistes sur l'utilisation du numérique, mais aussi par rapport à la situation du milieu, c'est-à-dire les réalités de la province du Maniema. Il y a aussi d'autres paramètres qu'il faudra voir de plus près, parce que, comme vous le savez, nous faisons face à un problème criant lié à la connexion Internet, et donc il est aussi demandé à ce que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons nous équiper, c'est-à-dire, je te dis, ici je parle des médias, les médias doivent s'équiper pour avoir, par exemple, une bonne connexion, avoir des plateformes qui vont leur permettre donc de diffuser les informations au-delà de leur bassin d'audience. Donc, cela passe par ces deux conditions, il faut d'abord passer par la formation et puis l'équipement. Et cela aussi demande un moyen, voilà pourquoi nous avons aussi réfléchi dans ce sens, c'est-à-dire nous avons essayé de trouver des mécanismes qui peuvent nous aider, nous médias ou nous journalistes de la province du Maniema, d'avoir des petits financements qui vont nous aider justement à faire cette transition numérique.
Parlant de ces petits financements, vous avez parlé aussi de la création l'utilisation de ces fonds provinciaux pour l'appui aux médias.
Et justement, nous avons initié un projet dédié qui porte sur la création d'un fonds d'appui aux médias, d'appui à la presse, qui s'appelle FAP en sigle. L'idée est de chercher le financement, que ce soit au niveau du pouvoir ici en province ou d'autres partenaires qui vont nous aider justement à avoir des moyens suffisants, comme je venais de dire, pour former les journalistes et permettre aux médias de trouver des outils et d'être à mesure même de diffuser en ligne, que ce soit au niveau des radios ou des télévisions. Donc voilà l'idée de mettre en place ce projet dédié à qui nous allons soumettre soit au gouvernement provincial à travers le ministère provincial de la communication et médias, ou soit nous allons chercher un élu provincial qui doit l'endosser et le présenter au niveau de l'Assemblée plénière pour que cette dédié passe et que ça soit promulgué par les gouverneurs de province pour qu'enfin nous, journalistes ou nous, médias du Maniema, nous puissions respirer, en tout cas avec le peuple que nous allons réussir à réunir à travers le FAP pour aider à cette transition numérique.
Étant ensemble avec les autorités politico-administratives, vous avez aussi parlé de la précarité financière des médias du Maniema. Au même moment que vous célébrez la journée de la liberté de la presse, certaines radios du Maniema sont fermées, scellées par la DGRAD.
Vous avez vous-même compris qu'il y avait vraiment une contradiction de ce que nous étions en train de parler et la réalité qui venait de se dérouler. Nous avons démontré la situation précaire que le média du Maniema est en train de traverser. Il est vrai que le média du Maniema éprouve de sérieux problèmes en ce qui concerne la mobilisation des recettes. C'est pratiquement impossible de voir un média ici à Kindu, je donne un exemple, de mobiliser par exemple 2 000, 3 000 $ le mois. Mais vous verrez des structures de l'État qui viennent demander 15 000, 20 000 $ à une radio communautaire par exemple. Où est-ce qu'elle va trouver les moyens? C'est comme ça que nous avons tiré l'attention des autorités au niveau de notre province pour que les autorités voient dans quelle mesure elles peuvent accompagner les médias. Parce qu'on ne peut pas parler de la liberté de la presse sans aussi faire allusion aux conditions dans lesquelles les journalistes sont en train d'évoluer. Mais malheureusement, après nous allons apprendre que non, 3 médias ont été fermés pendant qu'on était en train de célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Et c'est déplorable en tout cas. Voilà pourquoi une fois de plus, nous allons attirer l'attention du pouvoir provincial pour voir dans quelle mesure ils peuvent alléger tant soit peu ce que les médias, particulièrement les médias communautaires, doivent payer à l'État.
Grâce Mbambi Wambambi. Merci.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité, Grâce Mbambi Wambambi, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Jean Gandou et Jude Mister Bilanda. Alain Goy a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.